Bah alors, comme ça, vous étiez à Essen. De ce que j'ai entendu, c'est que vous avez fait pas mal d'achats là-bas.
Ah, moi, pas trop. J'ai été relativement raisonnable, plutôt des trucs d'occasion ou des vieilleries. Mais par contre, Elodie, elle a ramené un paquet de trucs. Hein.
Bah, c'était mon premier, du coup, oui, j'ai un peu craqué. Mais tout rentrait dans la valise et dans le sac à dos, c'était l'objectif.
Et t'as pu tout essayer?
Quasiment. Il y en a qu'un que j'ai pas encore essayé. Mais aussi, j'ai joué à plein d'autres trucs depuis, donc...
Ah ouais? Mais t'as joué à quoi?
Alors, j'ai joué à Ascension. Et j'avoue que j'y joue depuis quelques mois, parce que j'ai commencé par jouer sur l'appli. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Un jour un peu d'ennui, j'ai téléchargé cette appli un peu par hasard. Juste, je savais que c'était un jeu de deck building. Et donc, forcément, ça m'a parlé. Et je me suis jeté à corps perdu dans ce jeu-là. Je sais pas combien de parties j'en ai fait sur mon téléphone. Et derrière, j'ai pu l'avoir en physique alors qu'il est plus édité, parce que c'est un jeu de 2011 et qui est plus édité en France. Et j'ai joué quelques fois donc en physique. Ascension, il y a énormément de boîtes. Essayer de comprendre l'édition de ce jeu, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore, ce que j'ai essayé de faire quand j'ai voulu préparer cette émission. Moi donc j'ai la version des âmes déchaînées, qui est un standalone. Toutes les boîtes sont standalone et peuvent se jouer soit à 4, soit à 2 joueurs. Et si on combine différentes boîtes, on peut jouer jusqu'à 6. Comme j'ai dit, c'est un jeu de deck building, assez classique, enfin classique, sachant qu'il est sorti en 2010, je pense qu'il n'était pas si classique que ça au moment de sa sortie.
Ouais, c'est plutôt une référence, quoi.
Oui, voilà. Par rapport à Dominion, on est sur une rivière qui est sur une rivière et non pas sur un marché fixe. Et on va donc avoir 10 cartes de base, piocher 5 cartes, jouer nos 5 cartes pour acheter d'autres cartes. Et on va, en fait, il y a une réserve de points de cristaux qui vont être de 30 cristaux par joueur, et qui vont être un peu le sablier du jeu. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on va gagner ces cristaux, et quand la réserve sera vide, le jeu se termine. On finit le tour des joueurs et joueuses, et le jeu se termine.
Mais les cristaux, c'est des jetons physiques, ou c'est des cartes?
C'est des jetons physiques, c'est des petits cristaux en plastique très mims. Et en fait, tu les gagnes en tapant sur des monstres qui arrivent dans la rivière. Comme dans Clank.
Okay.
Clank a repris pas mal de choses d'ascension. Dans la partie, on va avoir dans la rivière des monstres qui vont arriver. On va les taper avec l'une de nos ressources. On a soit des ressources qui vont permettre d'acheter, c'est les runes, acheter des cartes, améliorer son deck, soit des ressources qui vont permettre de taper les fameux monstres qui apparaissent, ou le monstre qui est là tout le temps, c'est le cultiste. Donc là encore, les joueurs de Clank, ça va vous rappeler quelque chose.
Le cultiste, c'est celui qui soulève des poids, là, non? Qui fait des gros muscles?
C'est celui-là.
Non? C'est celui-là.
C'est celui-là.
C'est le,
tout à fait.
Le culturiste, je sais plus.
Mais t'as envie de le taper pareil.
Et lui, il fait office de boss, en gros? S'il reste tout le temps, c'est quelque chose d'un peu plus costaud que le reste ou pas du tout?
Non, au contraire, il a très peu de points de vie et du coup, tu peux le taper tout le temps, en fait. Exactement comme dans Clank.
Ah oui, d'accord.
Où t'as aussi le cultiste. D'ailleurs, Clank fait un gros clin d'œil à Ascension en appelant sa carte de la même façon que dans Ascension. Et on peut aussi gagner ces fameux cristaux avec certaines cartes qui nous disent bah à chaque fois qu'elle revient, tu gagnes un cristal ou tu vas gagner des cristaux si t'as d'autres types de cartes de cette faction. Les cartes, on peut soit les jouer, enfin la plupart, on a soit des héros qu'on va jouer à chaque tour, soit des artefacts qu'on va poser devant nous et qui vont nous faire des avantages à chaque tour, qui vont rester posés devant nous toute la partie. Sauf si des monstres les font péter, enfin... Je vais pas rentrer dans le détail des règles. Ce qu'on va retrouver dans un autre jeu des mêmes auteurs, enfin en tout cas d'un des deux auteurs d'Ascension que je n'ai pas cité, qui sont Justin Gary et John Furio. Et Justin Gary, derrière, il a créé Shards of Infinity, qui a aussi ce système des quatre factions. Alors, dans Shards, on tape son adversaire, on va lui faire perdre des points de vie, et on tape pas des monstres dans une rivière centrale. Mais on a le même système des quatre factions, qui se ressemblent énormément. Et on a aussi ce système des champions qui sont l'équivalent des artefacts dans Ascension, c'est-à-dire des cartes qu'on va laisser devant nous toute la partie. Donc voilà, c'est vraiment... Enfin moi j'adore ce jeu, je trouve qu'il est hyper fluide à jouer. Et le système des quatre factions, qui chaque couleur va fonctionner un petit peu différemment, en symbiose avec... chaque partie a une saveur différente. Parce qu'on peut jouer de plein de façons différentes grâce à ces quatre factions.
Du coup la rivière qui reste au milieu, elle va être défaussée au fur et à mesure des attaques que vous lui donnez. Vous récupérez les cartes que vous avez à combattre et ça vous permet de faire des points.
Oui, T'as, en fait, la rivière, elle avance de toi, t'achètes les cartes. T'as une partie des cartes, c'est les héros, les artefacts qui arrivent dans la rivière. Soit c'est les monstres, et les monstres, ils sont défaussés quand tu les attaques.
Ok. Donc, en fait, vous faites une course à travers cette rivière pour essayer de gagner le plus de points, enfin, de cristaux possible.
C'est ça. Et à la fois, t'améliores aussi ton deck au fur et à mesure. Très classique, enfin, comme un deck building très classique, où vraiment tu vas acheter des cartes qui vont revenir chaque fois que tu vas remélanger ta défausse et être de plus en plus forte. Enfin, ton jeu va être de plus en plus fort. Et donc te permettre de taper des monstres de plus en plus forts. Parce que des fois, t'as des gros monstres qui sortent dès le départ, du fait de la rivière, de l'aléa de la rivière et de la pioche. Donc t'as des monstres qui peuvent rester 5-6 tours jusqu'à ce que quelqu'un ait assez de puissance pour pouvoir lui taper dessus.
Mais les monstres, ils vous défoncent pas. Ils restent là, statiques, quoi.
Non, les monstres, ils te défoncent pas, ils restent là. Non. En tout cas, dans la version des âmes déchaînées, les monstres, ils te font rien. Ils font pas perdre de points. De toute manière, t'as pas de points de vie.
Ouais, c'est vrai que dit comme ça, ça a pas l'air hyper original, mais faut vraiment le prendre pour une référence. Moi, j'ai pas joué à Ascension, mais j'ai joué à Saint Seiya The Deck Building Game, et on m'a dit que c'était très très similaire, quoi. Je sais pas si c'est vrai. Je me souviens plus trop, j'avais joué qu'une fois.
Ah, j'ai joué une fois aussi à Saint Seiya, j'ai trouvé ça très 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 long.
Ouais, c'était hyper lent. Mais on m'a dit que le système c'était le même qu'Ascension et tout, je sais pas si c'est vrai.
Oui, et à la fois, enfin, des fois, t'as pas besoin d'un jeu très original pour qu'il fonctionne, que sa méca, elle fonctionne vraiment et qu'il soit hyper addictif. Shard, c'est pareil, enfin, il est pas original non plus. Et pourtant, je trouve qu'il tourne tellement bien, t'as tellement de façons différentes de gagner, que t'as toujours un goût de reviens-y, quoi.
Après, tout est fait, enfin, ça marche si tes règles, elles sont bonnes, si tes cartes, elles sont bonnes, si ça synergise, et t'as pas besoin de beaucoup, beaucoup plus, finalement, pour faire un bon deck building. Mais c'est déjà énorme, quoi. Il faut réussir au moins à avoir ce contrat-là pour faire quelque chose de cool à jouer.
Bah, c'est ça. Et puis, avoir, du fait de l'aléa de la pioche, de faire en sorte que, quoi qu'il sorte, ça puisse être intéressant. Moi, j'ai eu des parties sur l'appli où j'avais épuré mon deck au point que j'avais plus de quoi acheter, j'avais plus que de quoi taper. C'était n'importe quoi. J'ai gagné quand même contre le bot, mais c'était...
Mais sur l'appli, tu jouais en réseau, tu jouais avec une IA ou bien il y a un truc solo?
Je joue contre un bot.
D'accord.
Parce que comme l'appli est assez ancienne, il n'y a plus assez de joueurs pour pouvoir jouer en direct avec des gens.
C'est triste.
Mais ça me va bien contre le bot, ouais. Au moins il répond tout de suite. Et,
les factions, tu disais, donc elles sont très très différentes. C'est typique une faction qui est plus agressive, une faction qui est plus défensive, c'est ce genre de choses?
C'est ça. Alors, t'as pas à te défendre puisque t'as pas de points de vie, à la différence de Shards of Infinity où là t'as les verts qui te défendent, qui te remettent des points de vie, etc. Là on a aussi la faction des verts qui sont liés à la vie, donc on est plus sur un côté nature, et eux ils vont marcher pas mal en synergie et ils vont te faire gagner des points. On a les néants où là ça tape, donc c'est les voids dans Shards, qui sont violets aussi, la couleur est la même. On a les illuminés qui vont permettre vraiment d'aller jouer sur la pioche, sur les autres factions, avoir des synergies entre factions. Si tu joues toutes les factions, tu vas gagner des trucs. Et enfin, on a les mechas, et là, c'est souvent les artefacts, les cartes que tu laisses devant toi. Comme les homodeus dans Shards, où il y a beaucoup de champions.
Ok, d'accord.
Il y a des mechas, parce que c'était pas un thème Heroic Fantasy, Ascension? Non, je me trompe.
Alors la thématique, et pour là ça détonne parmi tous les jeux que j'aime, voilà, ça part dans tous les sens.
Ah ouais,
c'est vraiment, t'as des chamans, t'as des vieux druides, ça part absolument dans tous les sens. Et le seul truc qui fait que j'ai vraiment pas compris le lore du jeu, mais par contre il y a une identité graphique qui est hallucinante, du fait que, d'après ce que j'ai lu, il y a qu'un seul artiste qui a fait toutes les cartes. Et c'est énorme, hein, parce que je sais pas combien il y a de boîtes, donc je sais pas combien ça représente de cartes. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Eric Sabi. Et lui, il utilise une technique, c'est la carte à gratter. Vous avez peut-être fait ça à l'école quand vous étiez petit. Ces cartes noires qu'on grattait...
Bah, je connais les jeux à gratter, mais...
C'est le même principe, c'est t'as une couche que tu vas enlever avec un stylet et la couleur dessous. Je me souviens d'en avoir fait à l'école primaire, avoir peint un carton avec plein de couleurs, recouvert de peinture noire, et après gratter cette peinture noire qui fait apparaître la couleur dessous. Alors évidemment, il a une meilleure technique que moi en primaire.
Oui, puis il a un plan derrière, il sait ce qu'il veut dessiner en tout cas. Oui,
oui, oui. Mais c'est vraiment une identité graphique très particulière, avec beaucoup de petits traits, avec quelque chose qui fait un peu crade. C'est très très beau, mais c'est pas joli.
De toute façon, dans les deck building, on les regarde pas, les illustrations.
Et ben, pour le coup, là, j'ai vraiment voulu avoir le jeu pour pouvoir les regarder, parce qu'il est magnifique.
voilà, c'est moi, tous les deckbuilding que je fais, j'irai pas d'image, ça changerait pas vraiment grand chose. Hein.
Ah, c'est l'immersion, c'est important.
Pour celui-là, je trouve que ça amène vraiment quelque chose et que ça amène un intérêt au jeu. Alors que Shards, je les regarde pas, alors que Clank, je les regarde pas.
Ah, tu vois. Mais celui-là, ouais.
Oui, bah, justement. Bah, celui-là, ouais. Et donc, bah là, vous allez vous dire, mais tu nous parles d'un jeu, tu nous fais peut-être envie, et ce jeu, il est difficile à trouver et il n'est plus édité.
Et il n'y a personne qui joue à l'appli.
Et il n'y a personne. Bah, vous pouvez.
Enfin, si, voilà. Coup, si des gens. Voilà.
Voilà.
Vous aurez Elodie.
Faites-moi coucou. Venez jouer avec moi. Ou jouez tout seul, hein. L'appli est gratos.
Ah, ça se trouve peut-être d'occasion, non?
D'occasion, c'est pas évident. Franchement, moi, je l'ai trouvé d'occasion, mais il y avait très peu d'offres. Par contre, il y a Yellow qui a prévu de le rééditer l'année prochaine.
Ah.
En tout cas, la boîte de base. Donc, il va être retrouvable bientôt.
Tu pourras t'inscrire à des tournois de newbies comme ça, puis tu les massacres, tu vois.
Ouais.
Je découvre le jeu, je découvre le jeu.
J'ai jamais joué.
C'est bien.
J'ai pas du tout 500 parties derrière moi.
500 parties,
je crois, un truc comme ça. Ah ouais, non, mais vraiment.
Hein. Ah, tu les as enchaînés. Hein.
Ah oui.
C'est... Ouais. Là, je me suis un peu calmé, mais je pouvais en faire 10 par jour. Ah ouais, non. Quand je vous dis que c'était.
C'est vraiment une addiction, quoi.
Et c'est des parties de combien de temps?
Un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure.
Tu nous aurais dit une heure, on serait inquiétés.
Oui. Non, non. Après, en physique, c'est plus long, parce que les gens lisent les cartes et tout ça. Là, moi, les cartes, je commence à les connaître par cœur, donc je joue super vite.
Ouais, et puis il y a toujours un peu de manip aussi, forcément, c'est plus...
Et l'avantage, pour ceux qui ont envie de jouer à l'appli, c'est qu'il y a toutes les extensions. Par contre, c'est qu'en anglais.
Ah ouais, et tout gratuit. Toutes les extensions gratos, quoi. Ah ouais.
À part 2-3 cartes, mais vraiment, il y a 90% de l'appli qui est gratuite.
Sympa, les développeurs.
Ils se sont dit, il y a personne qui va acheter ça. Je vais forcer de la mettre au fer. Ouais.
Et toi, Julien, t'as joué à quoi?
Eh ben, moi, j'ai joué à un jeu un petit peu moins ancien, voire même plutôt récent. C'est Darwin Journée. Donc, un jeu, j'imagine, que vous avez beaucoup entendu parler.
Alors, c'est lequel? Parce qu'il y a deux jeux Darwin qui sont sortis en même temps. J'ai joué à aucun des deux. C'est lequel?
Bah, en effet, à chaque fois, tout le monde se trompe. En gros, c'est celui qui est considéré comme étant expert de Simone Luciani et Nestor Mangone. Alors que l'autre, je crois qu'il s'appelle Darwin... je sais plus, le plan de Darwin, ou je sais plus, un truc comme ça, hein, qui est un jeu plus accessible.
Ouais, moi j'ai joué à l'autre. J'ai joué au plus léger.
S'appelle...
Je ne sais plus, Darwin quelque chose.
Ouais, comme quoi, les titres, hein, c'est important quand même. Donc celui-là ne rentre pas en tête, mais Darwin Journée rentre un poil plus en tête, c'est possible. Donc voilà, donc c'est... Moi je connais assez peu finalement Simone Luciani et Nestor Mangone, je sais que c'est des gros auteurs, mais j'avais joué à Marco Polo que j'avais bien aimé, et Golem, j'avais rien pipé à ma partie, enfin je trouvais ça hyper difficile. Et donc je m'étais dit, je sais pas trop ce que ça va donner Darwin Journée. Après je sais que c'est un petit peu plus accessible que Golem, mais j'avais un petit peu peur. Et en même temps, j'entends tout le monde dire, que c'est un super bon jeu, qu'il va peut-être gagner l'As d'or et tout. Donc je m'étais dit, allez, on se lance. Donc l'idée, c'est que on incarne des navigateurs et on va suivre le bateau de Darwin qui sera dans le Galapagos. Donc c'est à l'endroit où il a fait la théorie de l'évolution. Et en gros, on va l'assister en essayant d'aller un petit peu plus vite que les autres adversaires, histoire un peu de briller devant Darwin. Et pendant notre expédition, on va récupérer des espèces animales ou végétales, et on va les envoyer dans des musées à Londres pour faire des points, en fait. C'est un peu ça le but du jeu. En tout cas, c'est comme ça que le pitch nous présente le jeu. Et le truc qui faisait un petit peu le buzz, c'est cette histoire de pose d'ouvriers évolutifs. Donc on a des ouvriers, qui sont en fait des explorateurs qui sont avec nous dans notre bateau. Et on va pouvoir les spécialiser selon les actions à faire sur le plateau. Donc il y a trois voies de spécialisation. En gros, dans le plateau, on a une partie où il y a des îles. Donc on va pouvoir explorer les îles et récupérer du coup les animaux qui se trouvent dessus. Ou alors des quantités astronomiques de combos qui permettront du coup de faire plein d'actions supplémentaires. On a la partie de navigation où là on a les bateaux et on va définir si on va sur telle ou telle île, si on prend tel ou tel bonus. C'est hyper hyper classique comme système. Et une autre partie qui s'appelle la correspondance, où là l'idée c'est de se dire que nous on va écrire des lettres, des courriers. Il n'y a pas de contenu particulier dans ce courrier, c'est juste une mimique pour faire un jeu de majorité. Et donc là c'est pareil, c'est encore une spécialité qu'on va pouvoir créer dans nos ouvriers. Et du coup, pour donner la teinte à nos ouvriers, on va utiliser des cachets de cire, ce qu'ils appellent des cachets de cire, qui appartiennent à chaque couleur. Donc je crois que l'exploration de l'île, il me semble que c'est bleu, que la navigation, ça va être vert, que la navigation c'est bleu, la correspondance c'est jaune, bref. On a 6 slots libre sur chacun de nos ouvriers. On a 4 ouvriers au début de la partie. Et du coup, on va pouvoir se dire, je vais attribuer, deux cachets de cire correspondance à tel ouvrier, et puis un autre, je vais peut-être plutôt lui mettre de la navigation, peut-être un autre plus de l'exploration. Enfin voilà, on va faire un peu un mélange de tout ça. Et l'intérêt, c'est que on a des actions, et plus notre ouvrier est spécialisé, plus l'action qu'il va pouvoir faire, elle sera importante, elle sera forte. Dans le jeu, elle aura un impact assez important. Donc voilà, c'est une idée de pose d'ouvrier évolutif. Je me dis, pourquoi pas, ça peut être intéressant.
Ces ouvriers, tu les définis au départ ou c'est au fur et à mesure ?
Alors tu commences avec 3 cartes personnages, et ces personnages, ils ont un seul cachet de cire de couleur, donc ça sera toujours des couleurs différentes. Donc tu vas en gros avoir une personne qui sera fort en navigation, une personne en correspondance, une personne en île, et t'as une quatrième personne qui a un cachet de cire violet, qui est un joker. Donc au début, ils sont pas très forts, et ils ont une teinte qui leur est donnée. Mais après, c'est à toi de décider si tu veux les spécialiser dans une catégorie, genre par exemple la navigation, ou si tu veux faire un patchwork de leurs activités, parce que si tu n'as pas la couleur demandée pour faire l'action, tu peux pas faire l'action.
Ok.
Donc du coup, t'as un petit... Enfin, en tout cas, le jeu annonce une réflexion à travers cette évolution de l'ouvrier. Et au final, alors que c'était un peu ça moi qui me donnait envie d'y jouer, j'étais assez mitigé par le truc, parce que au début de la partie, donc on reçoit des cartes personnages, et sur ces cartes personnages, on a des objectifs qui appartiennent au personnage en question. Et ces objectifs, c'est par exemple avoir un moment dans la partie, quatre cachets de cire correspondance et un navigation, par exemple.
C'est des objectifs cachés ou
publics ? C'est visible. Mais on se bat un petit peu pour les cachets de cire, mais c'est pas le centre du jeu. Je pense que si tu veux un cachet de cire d'une certaine couleur, tu peux le récupérer sans trop de difficulté. Donc tu peux spécifier ton ouvrier assez simplement vers cet objectif-là. Mais du coup, ça fait que on t'a donné déjà dès le début ce que tu dois faire avec ton ouvrier pour pouvoir lui permettre de faire son pouvoir. C'est un pouvoir unique assez fort que tu peux faire une fois dans la partie. Donc, t'as finalement assez peu d'intérêt de sortir de ce carcan qu'on te donne, parce que tu vas louper un gros pouvoir en plein milieu de ta partie, ce qui va être assez intéressant. Le seul truc qui peut permettre, qui peut te donner l'idée de vouloir faire un personnage qui sait faire un peu tout, donc avoir les 4 couleurs du jeu, c'est de se dire, au moins ce personnage, si je sais pas trop quoi faire, ou si je gère mal mon placement, il pourra toujours faire une petite action, histoire de pas perdre mon tour ou de pas perdre l'intérêt de ne pas utiliser mon ouvrier. Mais au final, c'est pas un vrai choix. Ça veut dire que c'est parce qu'on a l'impression qu'on va pas réussir à bien calculer son coup qu'on va faire un personnage avec plein de couleurs différentes pour aller partout. Si, à partir du moment où on arrive à se créer une stratégie, il y a très peu d'intérêt de vouloir faire un melting pot de couleurs comme ça pour un ouvrier. Donc on va finalement se dire, mon ouvrier, il fera que de la navigation, celui-là il fera que de la correspondance, et en fait on fait des actions qui sont très puissantes et qui permettent de gagner. Donc j'ai trouvé que c'était finalement un peu un twist sur la boîte un peu vendeuse qui était pas si important et si bien intégré dans le jeu et pas si intéressant. À côté de ça, ils nous mettent aussi des cachets de cire violets. Alors le cachet de cire violet, c'est des cachets de cire joker. Donc en gros, un violet, ça équivaut à n'importe quelle couleur. Mm-hmm. Et là, c'est pareil. En fait, je me suis dit, c'est bizarre. Il suffit de mettre un cachet violet en secours sur un ouvrier. Et dans ce cas-là, il pourra aller faire ce qu'il veut comme petite action de secours et faire beaucoup d'actions sur une seule couleur dans sa spécification. Et donc là, c'est pareil. Je me suis dit, il rajoute beaucoup de petits éléments qui, au final, font que le jeu, il est pas si stratégique et pas si particulier. En tout cas, le développement des ouvriers n'est pas si intéressant que ça. Après, les choses que j'ai plutôt bien aimées, c'est le blocage. C'est un jeu où il y a vraiment pas mal d'interactions entre les joueurs. On a des actions qui sont limitées en nombre de meeples qu'on peut y placer. Donc là, forcément, il y a une course qui se crée entre les personnes. On a aussi l'idée que les actions, elles se font sur des... Alors, c'est très joli, d'ailleurs. C'est sur des livres, enfin, des sortes de courriers. Et donc, on a les actions qui sont dessus. Et si, la première personne qui se place dessus, s'y place gratuitement. Mais si d'autres personnes veulent y aller, ils doivent payer 3 pièces. Et 3 pièces dans le jeu, c'est vraiment beaucoup. Donc, il y a vraiment une idée de course à essayer de prioriser, à se dire on va aller sur telle ou telle action pour essayer d'empêcher l'autre d'y aller. Donc je trouve que en termes de blocage et d'interaction entre les joueurs, c'est pas déconnant quoi. Je trouve qu'il y a pas mal de petites choses. Par exemple, il y a aussi ce qu'ils appellent des lentilles. Donc c'est une action qui permet d'activer des actions plus fortes qu'on pourra faire avec des meeples qui seront beaucoup, enfin des ouvriers qui sont beaucoup plus évolués. Et là c'est pareil, on place une lentille à sa couleur et donc on va pouvoir faire l'action et si quelqu'un d'autre veut la faire, il devra payer aussi des pièces en malus. Donc voilà, c'est plein de petites mécaniques qui sont intéressantes sur le côté interactif entre les joueurs.
Et elles s'imbriquent bien entre elles, ça fait pas un gros gloubi-bouga de truc un peu trop détaché. Ça s'imbrique bien les unes dans les autres.
En tout cas, la partie action, les actions que tu vas faire avec tes meeple, tes ouvriers, marchent pas trop mal, ouais. C'est assez thématique, tu vois facilement ce que tu dois faire. C'est assez simple au final, c'est pas si compliqué à mettre en place, donc je trouve que ça marche pas trop mal ensemble. Mais là où moi j'ai été très déçu, c'est sur la partie thématique. Graphiquement, il est super beau, le matériel est nickel. Tout va dans la thématique, on a des cachets de cire, on fait des correspondances, t'as des petites lettres, enfin c'est hyper joli, mais c'est un jeu qui n'est absolument pas immersif. Au final, on fait des actions qui n'ont strictement, en tout cas qui n'ont pas grand chose à voir avec le pitch de départ qui est on va aller aux Galapagos et on va aller sur des îles où aucun Européen est né allé et on va essayer de trouver des espèces qu'on n'a pas trouvées. Enfin, qui sont inconnus. En fait, ce truc-là, dans la mécanique, il existe quasiment pas. Il y a juste une partie qui est la collection d'animaux ou d'espèces vivantes. Et donc, l'idée, c'est que quand on se balade sur les îles avec notre petit pion, on va pouvoir croiser des animaux et on va pouvoir les capturer. Donc, c'est simplement se déplacer sur la tuile, capturer l'animal, et voilà, et c'est fini. Et après, on a une action, une pauvre action, où on va envoyer l'animal dans un muséum à Londres. Et voilà, on a fini la partie découverte d'un écosystème, des espèces, etc. Ça s'est limité à juste une pauvre action de transfert de tuiles du plateau au musée. Et en fait, je trouve que c'est d'une tristesse absolue de faire un jeu sur Darwin, sur la théorie de l'évolution, et au final, ne s'intéresser qu'à, je sais pas, ça représente peut-être 10% du jeu, cette partie-là, alors que tout le reste, c'est du placement, de l'évolution, de meeple. Enfin, c'est des mécaniques et surtout des thématiques qui sont très, très basiques, qui sont pas très, très novateurs. Moi, je m'attendais à un jeu où j'allais un peu en prendre plein la vue, en me disant, on va avoir des espèces, on va devoir travailler dessus, essayer de comprendre l'écosystème, comment marchent les choses entre elles, etc. Et au final, on a strictement rien là-dedans, et j'ai trouvé ça hyper décevant de vendre un jeu du coup sur la théorie de l'évolution et d'avoir un truc si simple et si basique. J'aurais tellement préféré que la partie collection ou découverte des animaux représente 90% du jeu. Ça aurait dû être l'inverse en fait. Et là, ça a été finalement un jeu qui reste un jeu extrêmement abstrait. Donc voilà, ça a été plutôt une déception au final, ce jeu.
Ouais, je suis un peu étonné parce que ouais, j'en avais entendu du bien aussi de celui-ci. Puis moi, graphiquement, je suis allé faire un petit tour là. C'est vrai qu'il a l'air hyper chouette, quoi. Puis moi, je suis pas un fan inconditionnel de Simone Luciani, mais ceux que j'ai essayé, Marco Polo, Lorenzo le Magnifique, là, ça, moi, c'est des trucs que j'avais bien aimé. Donc, je suis un peu étonné.
Puis lisible, ils ont un but clair et précis, et je trouve que ça s'imbrique bien. En tout cas, Marco Polo, j'ai testé, et j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que ça marche.
Après, c'est marrant parce que quand tu parles de la thématique vraiment des animaux qui évoluent, l'écosystème, etc. On avait joué, je crois que c'était à 4, on avait joué à Biotope qui se rapproche plus de ce que tu dis là, ou même dans un contexte plus agressif à évolution simplement.
Oui.
Où là tu luttes pour survivre, mais pas pour c'est beaucoup moins scientifique quoi.
Ah oui, là, pour le coup, évolution, t'as vraiment l'évolution de tes espèces. Tu le sens bien.
Ah bah...
J'ai détesté ce jeu.
Ah, là là. Ah putain, t'as pas honte? Bon, allez, j'arrête, je m'en vais.
Ah là là, ouais, mais j'ai détesté la partie. Je sais pas si c'est vraiment le jeu, mais je jouais avec quelqu'un qui nous expliquait les règles au fur et à mesure. Comme ça l'arrangeait.
Ah, donc c'était pas le jeu le problème, c'était la personne.
Bah, le jeu, il pique les yeux quand même.
Ah non, il est génial le jeu, il est magnifique. Comment ça, il pique les yeux?
Ah ouais, non. Ah non, je trouve ça horrible. Non, il pique les yeux.
Il est superbe en plus le jeu.
Bah, je trouve pas.
Ah bah.
On sera pas d'accord là-dessus.
Ah bah non, on sera pas d'accord là-dessus.
Donc voilà. Bon, avant que tu partes de rage, Cargo, parce que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas la critique sur Evolution, t'as forcément joué à quelque chose toi aussi.
Moi, j'ai joué à un jeu qui a plus de 50 ans, moi. Parce que j'ai réussi à me procurer Situation 4. Situation 4, pour parler en français. C'est un jeu dont j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais jamais eu l'occasion d'essayer, ni même de toucher. Et à force de recherches sur Internet, comme ça, parce qu'on en trouve des jeux d'occasion, on trouve des situations fortes d'occasion, mais généralement, ils viennent des États-Unis, et puis il y a des frais de port qui sont pas raisonnables. Et là, j'en ai trouvé un, je sais plus sur quelle plateforme c'était, ça va être sur Le Bon Coin, etc. Et j'en trouve un à un prix abordable. Ce qu'il faut savoir, c'est que Situation 4, je dirai après, mais c'est un jeu de puzzle, en fait. Et mm-hmm. Je vois, il aborde trop bien. Ah, ok. Est-ce qu'il est complet?
Oui.
Et la nana, c'était nana, elle me dit, ah, écoutez, je regarde ce soir. Et elle fait tout le puzzle, et elle en, il manque une pièce.
Oh
ah,
non.
Putain. Ah, ça fait trop chier, je veux pas un jeu, il manque une pièce, etc. Et le soir même, il y a une autre annonce qui tombe sur une autre plateforme.
Qui vendait que la pièce manquante.
Ça aurait été marrant. Non. Qui lui, le même soir, je tombe sur une autre annonce. Sûrement de gens qui savent pas ce qu'ils vendent, en fait. Parce qu'ils les vendaient, je sais plus, j'ai dû l'avoir à 20 ou 25 euros. Alors, en théorie, sur Ocaseo, tu peux le vendre facilement 70 balles si il est en bon état, voire plus que ça.
Ok. Oui, les gens pensent que c'est un puzzle, finalement. Ils s'arrêtent là.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, j'ai enfin pu me le procurer à un prix raisonnable, parce que je le cherchais pas à un prix cher. En super état. Complet. Et c'est, si je suis très très content, c'est parti. J'ai pas beaucoup de jeux de collection, mais ça fait partie des jeux que je vais garder précieusement. Situation 4, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de puzzle en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes. Alors moi, j'y ai joué qu'à deux, mais on peut faire des équipes de deux pour jouer à quatre. On va réaliser le même puzzle simultanément en mélangeant un jeu de puzzle à un jeu de guerre. C'est-à-dire que moi, j'ai un puzzle. Alors, j'ai pas compté, c'est même pas expliqué dans la règle combien il y en a. Je pense qu'il doit y en avoir plus d'une cinquantaine. Alors, deux puzzles d'une centaine de pièces. C'est-à-dire que moi, j'ai un puzzle.
Okay.
Mon adversaire a un puzzle. C'est le même puzzle, mais d'une couleur différente. Il y en a un qui est un côté vert et l'autre qui a un côté brun. Ça représente un champ de bataille. D'accord? Et on va le faire. Il y a déjà un cadre qui est posé au début de la partie. Et en fait, moi, je commence de mon côté et l'adversaire commence du sien. Quand on pose une pièce, on est forcé de... On peut pas poser les pièces où on veut sur le terrain, il faut forcément que ce soit raccordé à une de nos pièces. On va faire chacun le même puzzle, mais pas séparément. En fait, nos puzzles vont se croiser, ça va être le même. On va se rentrer dedans, en fait. D'accord ? Moi, je vais m'imbriquer dans ces pièces quand je vais le rejoindre. D'accord ?
Ok.
Le but du jeu, c'est de réussir à faire le plus d'espace possible, parce que à la fin du jeu, plus j'aurai, donc le jeu se termine quand le puzzle est complètement terminé, plus j'aurai réussi à faire des zones. Les zones, c'est représenté par des carrés qui sont, il y a des zones à réaliser, et il y a des points à récupérer en fonction de l'emplacement des pièces sur lequel, de l'emplacement des pièces sur lequel j'ai posé. Parfois, il y a des petits trous, et dès que c'est des emplacements stratégiques, et dès que j'ai posé cette pièce-là, que j'ai réussi à la raccorder à mon camp, je vais mettre un petit drapeau en plastique que je plante dedans. Tu vois, j'ai conquis cette zone, d'accord. Bam, je plante le truc.
T'as un trou dans ta tuile,
ouais,
quoi.
Ouais, il y a des trous avec des petits drapeaux en plastique à mettre dedans. J'ai des points si j'ai réussi à faire des zones quadrillées. Il y a une sorte de quadrillage et à la fin on compte le nombre de quadrillages complets que t'as fait et ça te fait des points. Et surtout, il y a des zones avec des tanks, avec ta réserve de tanks, et il y a des zones avec ta réserve de parachutistes. C'est-à-dire que si jamais je fais mon camp de parachutistes, donc il y a une zone, il y a un bâtiment à construire, si j'ai réussi à poser toutes les pièces de mon camp sur la zone parachutiste, immédiatement, je peux prendre trois parachutistes que je vais positionner sur leur base. Et en fait, à n'importe quel moment du jeu, je vais pouvoir utiliser un parachutiste pour parachuter une de mes pièces de puzzle que je n'ai pas encore posée sur une pièce qui est adjacente au camp ennemi. Je vous ai dit que normalement, les pièces, tu les poses sur ton camp, il faut que ce soit adjacent à une de tes tuiles. Là, le parachutiste, il peut te faire arriver directement dans le camp ennemi.
Mais il faut qu'elle corresponde, du coup, parce qu'elle n'est pas de la même couleur.
Ouais, mais il faut qu'elle corresponde. C'est-à-dire que moi, il faut que je trouve la pièce qui va bien avant lui, et dire, bah, dès qu'il pose celle-là, bim, je lui mets celle-ci juste pour l'embêter. Wow. Pour l'empêcher de faire son camp de parachutiste, par exemple. Mmh. Ou pour l'empêcher de prendre une zone qui valait 50, 100 ou 200 points, quoi.
Ok.
Donc, il faut regarder tes pièces, il faut regarder ta zone, il faut regarder ce que fait l'autre. Et il y a des tanks. Les tanks, si jamais t'arrives à remplir une zone de tanks, tu peux faire arriver les tanks, des tanks qui se déplacent sur Terre, et si jamais mon tank, il va juste, je décide de le placer à un endroit sur le jeu, il va empêcher l'adversaire de poser une tuile, enfin, de poser une pièce de puzzle en face du tank. Le tank, il protège une zone, l'adversaire pourra pas jouer ici. D'accord, je vais le bloquer.
Ok, avec son canon, quoi, en gros. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et la seule façon qu'il a de contrer ça, c'est d'arriver lui-même avec son tank directement face à mon tank. Là, du coup, ça va s'annuler. Et c'est un jeu hyper dynamique. Et la troisième petite spécificité, c'est qu'il y a des ponts. En fait, il y a une grande rivière qui traverse le champ de bataille. D'accord. Et la seule moyen pour les tanks de traverser la rivière, c'est de passer par les ponts. Le pont, tu ne peux le poser que si tu as fait la base du pont et l'extrémité du pont en puzzle. À ce moment-là, tu peux poser des ponts. Les ponts, ça fait des points et ton tank, du coup, il peut aller traverser. Et du coup, ce jeu est top. C'est incroyable d'avoir pris un système de puzzle qui normalement c'est censé être zen. C'est censé être, je fais un jeu de puzzle pour me détendre. Je suis là tranquillement. Ça fait un résultat qui est beau. Je suis fier de moi, etc. Là, c'est à rebrousse-poil complet. On est à sur tension tout de suite. Tu dis, ah, il faut que je pose ça. Qu'est-ce qu'il fait? Paf, j'ai les parachutistes dans ta tronche. J'avance vite. Il faut que je prenne les points. Merde, ma tuile, où est-ce qu'elle est? Ah, il m'a piqué ma zone. T'es sous tension. C'est vraiment très 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 intense et c'est un truc hyper innovant quoi. T'es en train de faire un puzzle, c'est un duel de puzzle en fait. Et on n'est pas en train de faire un puzzle côte à côte pour celui qui fait la. C'est pas une course.
Oui, c'est pas le plus rapide. Ouais. C'est le...
Non, il faut que j'arrive à conquérir. Tu vois ton terrain avancer en fait. Tu vois le mec rentrer dans ton terrain si t'arrives pas à l'empêcher d'avancer en posant les pièces là où il faut quoi. Et le fait d'avoir un petit espèce de wargame où tu mets des parachutistes, tu mets des tanks, tout ça en temps réel, donc faut faire gaffe à ce que tu fais. Tu peux préparer même des pièces en disant, dès qu'il met celui-là, celle-ci, la tuile, elle est prête pour mettre là-bas. Et c'est super. Et en plus, le puzzle, faut bien comprendre qu'il y a il y a un modèle qui est en dessous. D'accord? En fait, on part pas de rien dans le puzzle. Il y a un espèce de modèle qui est posé en dessous, qui est un peu light, hein. Le truc est pas forcément fait, complètement. Ce modèle qui est en dessous, en fait, ça va pouvoir t'aider parce que par exemple, il y a des routes qui sont oranges, il y a des routes qui ont des petits pointillés, etc. Donc, tu sais, ta tuile, tu sais, elle se ressemble toutes un petit peu, tu vois. En fait, il y a des espèces de champs qui sont quadrillés comme si c'était une vieille carte, tu vois. Donc, tu sais que la carte là, elle va là, mais tu sais pas où. En plus, généralement, les routes, il y a des routes chez toi, mais il y a des routes dans le camp d'en face. Donc, tu sais pas exactement où est-ce qu'elle va aller, mais tu peux facilement la retrouver, en fait. Quand t'as une pièce, c'est pas impossible de retrouver, mais comme t'es sous pression, tu vas faire des erreurs, tu vas essayer de te dépêcher, tu vas essayer, t'y arrives pas, t'essaies de la mettre de côté, celle-ci elle vaut 50 points, je la mets de côté parce que dès que j'ai là, je vais la poser là. Et c'est vraiment, c'est un truc, on dit que le jeu, il date de 1969. L'édition, elle date de 1969. Je vois pas ce qu'il a de vieux, ce jeu, en fait. Tu vois, mais dans sa mécanique, enfin, franchement, ça pourrait sortir aujourd'hui, en plus, avec toutes les facilités de production qu'on a pour produire des puzzles.
Oui, ça serait un carton avec des maps dans tous les sens et tout, enfin, ça serait n'importe quoi.
C'est ça, je suis pas sûr que le jeu serait un carton commercialement.
Je sais pas, moi, j'ai envie de l'acheter.
En fait, à produire, ça coûterait rien, tu vois. Tu prends le coût de deux puzzles d'une centaine de pièces et puis, je sais pas, en tout, il doit y avoir une vingtaine de pièces en plastique, tu vois, ça coûte rien, quoi. Pour une boîte comme Ravensburger, etc., c'est vraiment pas grand-chose.
Bah surtout quand on voit l'engouement pour les puzzles en ce moment. C'est vrai que ça serait un jeu à ressortir.
Mais, tu vois, mécaniquement, je trouve pas qu'il soit vieux. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que le look du truc, tu vois, les graphiquement, ça fait vieille carte. Et la couverture, elle est dingue parce que sur la couverture, pas l'arrière, sur la couverture, tu vois quatre personnes en train de jouer sur une table, donc deux parents et deux enfants. Mais genre, là, c'est la mère de famille avec un petit gilet rose et puis un collier de perles, avec une jolie coiffure. Le père, il a l'arrêt sur le côté, tu vois, c'est 1969, ouais, la couverture, je la trouve, tu vois ça, tu fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu imagines pas du tout la famille jouer à un wargame comme ça, tu vois. Et puis, il y a deux enfants qui ont l'air d'avoir 8 ans. Et c'est un jeu à partir de 8 ans. Nous, on a joué entre adultes. Hein.
Ouais.
Et vraiment super. Une découverte sensationnelle que je garde précieusement. Je suis bien content de l'avoir récupéré en super état et surtout avec toutes les pièces, quoi.
Ça a l'air fou comme truc, totalement taré.
Bah ouais, là c'était pas évident d'avoir toutes les pièces sur un jeu qui a 50 ans, quoi.
Oui.
Ouais, c'est ça. Bah, plus que 50, 1969, donc.
Là, j'avais trouvé un aller saute comme ça.
Ah ouais.
2 euros et encore tout l'intérieur était même pas dépunché.
Ah oui, voilà, pour le coup, t'étais sûr que t'avais tout.
Ah bah voilà, à 2 balles.
Ouais, ça c'est cool. Ouais, moi j'ai une petite tendance. En fait, c'est marrant parce que ça fait un petit jeu. Ils en avaient déjà parlé, puis on fait ça, puis tout ça, avec Dany, quand ils avaient parlé des jeux de collection. Puis moi, je suis pas collectionneur, Mais en fait, celui-là, je le cherchais et c'est marrant de faire une petite course, dire ah, il faut que j'arrive à le trouver, mais 100 mètres non plus. Tu sais, tu pourrais très bien le payer 150 balles, voilà ça.
Ouais. Et tu l'aurais, mais c'est pas.
Mais c'est pas marrant en fait. J'ai réussi à trouver le bon plan, etc. Et ça fait plusieurs fois que je m'achète des jeux comme ça. Je me suis acheté Situation 4, je me suis acheté Sleuth. Il y a quelques mois, mais la version qui a aussi 50 ans, quoi.
Ouais. Ça donne une petite saveur en plus, quoi. C'est comme si tu l'avais déniché quelque part.
C'est ça. Et puis, la première édition française de Can't Stop que j'ai réussi aussi à dénicher à prix très, très, très raisonnable. Et c'est marrant parce que ça donne au jeu une petite saveur particulière.
Ouais, clairement. Ouais.
Tu vois, ouais. Donc là, c'est vraiment une découverte super, quoi.
Ouais, ça donne vachement envie, en tout cas. C'est hyper original, quoi.
C'est une expérience unique, en fait. J'arrive pas à trouver de jeu, enfin après...
Oui, qui pourrait ressembler à ça, quoi. Ouais.
C'est vrai que des jeux de puzzle, moi j'en ai pas dans la tête. Des jeux qui jouent vraiment avec des systèmes de puzzle, j'en ai pas qui tombent. Mais en fait, j'arrive pas à le rapprocher de quelque chose. Il faudrait demander à des experts des vieux jeux, Pionfesseur peut-être qu'il trouverait un truc. Mais je sais que lui, il l'a ce jeu-là. Et il faut voir si ça se rapproche de quelque chose. Moi, j'ai vraiment trouvé ça unique, quoi.
Bah, moi, j'avais joué il y a longtemps, mais j'ai plus grand souvenir. Moi, je crois à un jeu qui s'appelle Gods. Où il y avait un peu cette idée de on fait notre puzzle, mais c'est pas un vrai puzzle, c'était juste des tuiles qu'on faisait dans nos coins, et on était aussi en simultané, on pouvait jouer tous ensemble à chaque coin, et c'était pareil, on n'arrêtait pas de poser nos tuiles, et il y avait une certaine course un peu comme ça, comme une sorte de fog, de mur de fumée en gros. On avance, on sait pas vers quoi on va aller parce que les adversaires font pareil de leur côté. Et ça ressemble un petit peu à ça, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc c'est possible que ça soit quand même assez éloigné. Mais il faudrait que je regarde si ça ressemble un peu à Situation 4.
Le jeu le plus proche dans lequel je pourrais le mettre, enfin encore plus proche, c'est vraiment, ça reste loin quand même, hein. Ce serait un jeu genre Blocus, mais si tu jouais à Blocus en temps réel. Je sais pas si vous voyez Blocus, c'est un jeu abstrait où tu positionnes des pièces, et le but c'est de... Enfin, il faut que j'en mette le plus possible et que j'empêche les autres gens de jouer, en fait.
Ouais.
Et du coup, tu vas jouer dans ton coin, puis tu vas te rapprocher des autres, et puis on va rentrer en conflit à un moment donné. Mais là, il faut imaginer que si on jouait en temps réel, en fait, tu vois.
Ouais, c'est chaotique total, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ah, ça doit être marrant de jouer à plusieurs, en plus, là-dessus.
Puis en utilisant ce matériel du puzzle, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Avec le truc, dit, bah, cette pièce-là, elle va là. Ah, bah, non, ça va pas, non. Ça va pas du tout. Ah, putain, il a mis un tank et il m'a bloqué.
Parce qu'on est d'accord que tu pourrais, avec tes parties de puzzle, tapisser tout le plateau.
Ah, tout à fait. Si voilà. Tu joues contre quelqu'un qui va pisser, il revient et puis c'est fini.
Voilà,
quoi.
Ouais. C'est ça.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Ça a l'air génial. Bon, un jeu
ouais,
à apporter.
Ça fait super envie, ouais.
Ouais. Ouais, faudra un jour le découvrir.
Ah, je serais ravi de vous le faire découvrir.
Par contre, joue-y pas trop d'ici là parce que tu vas connaître toutes les pièces par cœur et ça sera de la triche.
Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire, quand même. J'ai pas un super niveau en puzzle. Moi, avec mes enfants, je fais pas du... Au-dessus de 50 pièces, ça commence à être un peu balèze quand même.
Bon bah nickel, et bah du coup tu vas pouvoir continuer à faire des puzzles.
Ouais.
Elodie, on sait sur quoi elle va finir sa soirée.
Tout à fait.
On se dit à la prochaine.
À la prochaine.
À la prochaine.